Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La vie de l'esprit, l'émission de Radio Rentiel qui vous permet de vous familiariser avec des parcours très personnels, des parcours spirituels bien évidemment, des parcours intellectuels. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guylaine Claus Corsini qui est auteur, metteur en scène, qui a enseigné l'art dramatique mais aussi le développement personnel, qui a été reporter, photographe et journaliste et qui par ailleurs s'intéresse beaucoup à l'ésotérisme et aux religions orientales puisqu'elle a notamment traduit les fameux yoga sutras de Patanjali. Mais si je vous reçois aujourd'hui, Guylaine, c'est peut-être davantage pour évoquer un livre énorme que vous venez de faire paraître, une vraie somme, aux éditions Unicité, un livre intitulé « La lumière repliée ». Alors avant d'évoquer cet ouvrage, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre parcours. Comment en êtes-vous arrivé à l'écriture de ce livre ?
C'est une question aussi importante que l'écriture du livre. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que au départ, en fait, il n'était pas prévu que j'écrive ce livre. C'est l'accumulation de réflexions par rapport à cette formation ésotérique que vous avez évoquée, une accumulation de révoltes, surtout de grandes révoltes par rapport à tout ce qui se passe autour de nous depuis les dernières années dans le monde, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et un besoin tout à coup de crier ma colère, voilà, et en tant que femme aussi. Même si je ne suis pas une féministe traditionnelle, en tant que femme, j'avais besoin d'exprimer certaines choses que je ne trouvais pas satisfaisantes malgré toutes les luttes que les féministes ont entreprises.
Oui.
Le point de départ, c'était ça. Une grande révolte, une accumulation de choses et un besoin d'exprimer, voilà, dans une certaine direction, d'apporter un regard différent, c'est-à-dire un regard d'analyse ésotérique sur l'univers, sur le monde, sur l'humanité. C'est très ambitieux, n'est-ce pas ?
Quelle a été votre formation, si j'ose dire, ésotérique ? Vous citez très souvent notamment Elena Blavatsky ou Alice Bailey, etc. Comment en êtes-vous aussi venu à traduire les Yoga Sutras de Patanjali ?
En fait, les Yoga Sutras de Patanjali existent dans les études liées à la formation ésotérique dispensée par l'école Arcane à Genève. Et c'est comment ça s'appelle, lié avec le travail de réflexion sur l'âme, un traité sur l'âme, voilà. Ouais. Donc le traité sur l'âme est une analyse détaillée, précise des Yoga Sutras de Patanjali à l'origine.
Ouais.
Ça c'est une chose. Donc moi je les connaissais, je les avais étudiés dans l'école, etc. Beaucoup de fois. Et puis, un jour, j'ai rencontré une personne des éditions Alphée, et nous avons échangé sur le spirituel, l'ésotérisme, etc. Et elle en est venue tout à coup à me proposer cette traduction. Au début, j'ai été un petit peu surprise et un peu inquiète. J'ai dit non, je ne peux pas traduire, c'est très compliqué. Il y a du sanskrit, beaucoup de sanskrit mêlé à l'anglais, etc., etc. Et puis elle a insisté, nous avons discuté et tout à coup, ça a été un défi et j'ai eu envie de relever le défi. Voilà. Et puis je me suis lancée là-dedans et ça a été magnifique.
Et parallèlement, vous enseignez l'art dramatique. Il en est question, hein, d'ailleurs, parfois dans le livre.
Oui, disons que je n'enseigne plus, l'ai enseigné.
Oui.
Je l'ai enseigné de longues années, ma vie durant, c'est certain. Mais oui, j'y fais souvent référence parce que pour moi, il n'y a pas de grand fossé entre la vie réelle et la vie sur scène. Où est l'illusion, on ne le sait pas bien, sans des sujets de discussion, est-ce que c'est la scène, est-ce que c'est la réalité que nous vivons tous, etc., etc. Et donc, à travers tout le travail de formation, le travail lecteur studio, donc il y a beaucoup de psychologie, de choses comme ça qui est mise en avant. Donc, c'est vrai que j'en parle parce que j'ai beaucoup utilisé, beaucoup noté, beaucoup pris de recul par rapport à tout ce qui se passait devant moi sur scène.
Vous avez cité l'école Arcane, donc qu'est-ce que c'est que l'école Arcane ?
L'école Arcane, c'est une école ésotérique de formation de disciples pour le nouvel âge. Voilà, et pour donner un peu plus de renseignements ou son orientation, elle est liée à la Grande Loge Blanche transhimalayenne des maîtres tibétains. Donc, quand je cite Alice Bailey, Blavatsky, tout ça, sont liés tous les maîtres tibétains, voilà, dont on a entendu parler, au moins pour ceux qui sont un petit peu au courant des choses ésotériques.
J'en viens à ce livre, La lumière repliée, déjà le titre, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est, la lumière repliée ?
La lumière repliée, en fait, c'est tout simple. Cela veut dire que la lumière repart en arrière. Mais après, je vais vous citer un petit exemple très trivial. Je crois que ce sera encore plus facile. Mais sinon, c'est simplement, elle repart en arrière pour mettre à jour, en fait, l'ombre de l'humanité. Mais c'est pas seulement qu'est-ce que ça veut dire en elle part en arrière, donc s'il y a plus de lumière, on est dans le noir. Non, pas du tout. L'ombre a une certaine valeur, une certaine quantité de lumière également. Je veux dire, on regarde par la fenêtre, il y a du soleil, il y a de l'ombre, nous ne sommes pas dans le noir. C'est simplement une mise à jour de, on va dire, entre guillemets, des travers de l'humanité, pour ne pas dire de toutes les horreurs, les cruautés, les monstruosités que l'humanité ne cesse d'accomplir. Voilà, et c'était un vrai ras-le-bol de tous les mensonges, des hypocrisies, des manipulations que je voulais mettre en évidence. Donc, pour revenir à l'exemple très trivial, vous n'avez qu'à imaginer une boîte de sardines. À l'ancienne, vous savez, autrefois, on ouvrait les boîtes de sardines avec une espèce de tournevis, oui. Un petit tournevis, on enfilait un petit coin du couvercle et on roulait à l'envers.
Oui.
Et quand on avait terminé, les sardines étaient, voilà, qui étaient dans la nuit, apparaissaient en pleine lumière, mais elles étaient toujours dans l'ombre. Et c'est drôle, mais pour moi, c'est une image... À des millions de kilomètres du titre qui est très spiritualisé en fait, mais l'image me convient assez.
Oui. Alors, en préambule, je vais citer cette phrase de Jean-François Haas, puisque vous la mettez justement en liminaire. Si nous étions des monstres que nous ne voulons pas reconnaître, point d'interrogation, s'il fallait commencer par là, par ces ruines de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes pour bâtir enfin du nouveau. Nous sommes des monstres. Quand vous dites nous, est-ce que c'est l'espèce humaine ou est-ce que c'est spécifiquement l'homme, le masculin ?
Non, là, la monstruosité dont je parle, effectivement, elle s'applique à un caractère particulier ou spécifique à l'humanité. Elle ne s'applique pas à... Le monstre, c'est l'homme masculin, et en face, la femme, c'est l'ange, etc. Non, pas du tout. Hein. J'en parle plus tard de ça, de ces différences. Mais là, la monstruosité, j'en parle comme quelque chose qui est tout à fait caché, secret, inhérent à l'humain qui vient sur Terre. Et bien sûr, j'explique pourquoi et comment dans le livre.
Alors justement, d'où vient-elle cette inhumanité, en quelque sorte ?
Pour moi, elle serait un petit point du libre arbitre. Voilà. Un petit point du libre arbitre, avec lequel on viendrait sur Terre. Tout le monde. Tout le monde vient. Et beaucoup de gens disent, nous n'avons aucun libre arbitre. Et je suis contre ça. Je pense que nous en avons un. Pas énorme, mais nous en avons un. Et il va s'exprimer par les choix que nous allons faire d'une certaine action bien. Belle, bien, etc. En face, elle est moche, elle est mauvaise, c'est le mal, etc. En fait, c'est un choix. C'est juste le choix qui nous est offert. Donc, nous venons au monde avec, pour moi, les restes, les traces du début de l'univers quand les animaux sont apparus sur la Terre. Il y avait ces animaux énormes, monstrueux, puis il y a eu l'évolution, même si alors tout le monde se bat, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas si on descend du singe, on ne sait pas d'où exactement, malgré tout ce que l'on cherche toujours, c'est toujours le grand point d'interrogation. Mais pour moi, c'est une trace de l'animal, voilà, de l'âme animale qui est là, parce que nous sommes reliés à tout l'univers, donc elle est là en permanence. Et elle est un film, elle est cachée, secrète. Mais elle peut ne jamais apparaître. dans l'humanité. Elle pourrait ne jamais apparaître si l'humanité fait les bons choix. Et puis un jour, elle se trouve face à un choix, face à une activité, à un événement tout à fait inattendu, un signe noir, comme on appelle certains événements tout à fait improbables, etc. Il y a des choix à faire. Et là, le monstre, il se manifeste ou il ne se manifeste pas.
Oui. Alors, quand même, vous insistez beaucoup sur le masculin. Vous dites, hein, je vous cite, « Le but inavouable du masculin a longtemps été et demeure encore en majorité de réduire sa génitrice à une compagne obéissante, soutien et faire valoir de ses ambitions. » Il y a tout de même cette dimension, sinon féministe, mais du moins féminine dans votre livre.
Oui, oui, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Mais ce n'était pas mon point de départ, ce n'était pas ma direction absolue d'aller, d'entrer en combat contre le masculin, non, pas du tout. Ce n'était pas du tout mon intention. Et puis, je ne voudrais pas qu'on le prenne en personnel, vous voyez, un homme et une femme, chacun va se sentir, mon Dieu, elle parle de bataille entre un homme et une femme. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus général dont je parle. C'est une forme masculine, un principe masculin contre un principe féminin.
Oui.
Et ça, depuis le début de l'univers, puisqu'il y a eu séparation, etc., etc. Enfin, tout ça, je le précise dans la troisième partie, je raconte comment et pourquoi. Mais c'est... Voilà, c'est quelque chose qui, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, malgré tous les efforts et toutes les batailles des féministes, continue à être réel, malgré les apparences, malgré certaines femmes ont atteint certains points, certaines femmes ont fait certaines choses, certaines femmes ont obtenu des postes qu'elles n'auraient jamais pu avoir avant, etc., etc. Oui, il y a eu des progrès, mais quand on regarde la Terre entière, mais partout, on entend des choses terribles sur les femmes écrasées par les hommes, toujours.
Oui.
Mais, et même dans nos pays européens occidentaux, quand on pose des questions à certaines femmes, il y a des réponses très curieuses. Et par rapport à tout ce qui a été mis à jour ces derniers mois ou ces dernières années, qu'est-ce que c'était encore? La violence masculine, toujours, toujours, et une façon de regarder la femme comme si... comme si elle était toujours la petite, en bas,
oui.
La négative.
Vous dites que finalement, que peut-être, en tout cas, c'est ce que vous suggérez que peut-être justement ces formes d'agression violente semblent être l'apanage de ceux qui ne peuvent porter l'embryon de vie humaine. C'est pour vous que le fait que l'homme, bien sûr, ne puisse pas engendrer ni porter la vie, qui le rend si violent, si mauvais.
Oui, c'est vrai. Et là, je revendique cette idée, absolument, parce que nous allons de plus en plus vers une... Ça, c'est pas moi qui le dis, on le voit tous les jours et on l'a vu ces deux, trois dernières années, vers un développement technologique invraisemblable. Bon, on va très loin. Et beaucoup, énormément de scientifiques à travers le monde travaillent, on le sait, sur la génétique, etc., etc. Bon, voilà. Et je pense que le rêve, le grand rêve, le plus grand rêve de tous les rêves pour les scientifiques, c'est arriver à recréer un humain. Et là, je ne dis pas un homme ou une femme, hein, je dis bien recréer un humain. Or, je ne comprends pas pourquoi on a besoin... Et on tend vers ce désir de recréer un humain alors qu'il y a des femmes, des milliards de femmes sur Terre qui sont là et qui mettent au jour des enfants qui sont tout faits, qui ont tout de la tête aux pieds. Vous voyez ce que je veux dire?
Le transhumanisme vous fait peur?
Oui, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Justement parce que si on arrive à ça, si on arrivait à ça, je veux dire, que va-t-il advenir de la femme, de la mère, je veux dire, qui met au monde, qui a la vie en elle-même depuis qu'elle existe, elle met au monde. Elle a tout entre les mains, c'est elle qui a le pouvoir de vie. Je veux dire, je mets beaucoup en opposition dans le livre ce pouvoir de vie de la femme et le pouvoir de mort de l'homme. Et ça, c'est pareil, c'est dans cette généralité. J'ai beaucoup parlé des guerres. Et les femmes ne sont pas spécialement attirées pour les guerres. Je veux dire, la guerre, c'est l'homme qui l'a fait. Il n'y a pas si longtemps, on a entendu dans la voix d'un homme, nous sommes en guerre. Hein, et il n'y avait pas encore, il n'y avait pas les armes, il n'y avait pas les chars. Alors, pourquoi c'est toujours ces mots de tuerie, de mort. Moi, ce qui m'a révoltée, c'est ce qui, au fur et à mesure, dans le livre, est monté de plus en plus loin, de plus en plus haut, et qui me faisait réfléchir, mais d'où ça vient tout ça? Pourquoi toujours la mort, tuer, ces mots dans la bouche des hommes, alors que les femmes portent la vie, et s'il n'y avait pas des femmes pour mettre des hommes au monde, il n'y aurait pas d'hommes. Stop. Fini. Il n'y a plus d'humanité.
Est-ce que la femme, finalement, doit occuper aujourd'hui une place centrale pour vous dans l'avenir de l'humanité? Et quelle serait cette place?
Centrale, je ne veux pas trop utiliser ce mot, parce que centrale voudrait dire, ça y est, elle reprend à nouveau la place de l'homme, vous voyez? Alors on va à nouveau basculer, et ça va être... un autre combat qui va reprendre, non, mais elle n'a pas sa place pour le moment, elle n'a pas sa place du tout. On lui accorde des choses, à droite, à gauche, on lui accorde. Mais je pense qu'elle devrait être, voilà, il devrait, ce mot d'égalité qui est tellement galvaudé aujourd'hui, il devrait retrouver toute sa signification. Il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes, que ce soit dans les milieux politiques, les milieux économiques, les milieux, tout ce que vous voulez, scientifiques, mais qu'on regarde n'importe quelle catégorie de travail, jamais, ou c'est très rare, jamais il n'y a cette égalité, jamais, jamais, jamais. Parce que malgré tout, reste toujours derrière, caché, dans l'ombre, justement, cette chose que la femme, elle est là pour avoir les enfants. Alors c'est terrible de dire ça aujourd'hui, parce que les femmes se battent, les femmes travaillent, les femmes reçoivent des salaires, mais elles continuent à se battre parce qu'elles ne sont pas payées pareil, parce qu'elles sont ci, parce qu'elles sont ça. Donc il y a toujours quelque chose qui n'est pas en place. Donc c'est une écoute profonde de la femme, et puis peut-être aussi ça doit venir des femmes elles-mêmes, oui. Pas je veux dire pour se battre, mais des femmes elles-mêmes, si elles prenaient conscience du pouvoir qu'elles ont dans cette maternité, et pas je reste à la maison, je mets mon bébé et tout, non, mais ce qu'elles font, ce qu'elles portent, ce pouvoir de vie qui est énorme, qui est un miracle, je veux dire, je crois que les femmes l'ont oublié, que c'est une chose extraordinaire, exceptionnelle, et qu'elles sont les seules à la posséder. Ça aussi, dans cette troisième partie, je développe et j'explique pourquoi, jusqu'en allant le chercher jusque dans la physique quantique.
Alors, les religions sont aussi dans votre collimateur. Alors, toutes les religions, d'ailleurs, hein, vous citez des passages du Mahabharata, mais aussi des passages du Coran, etc. Enfin, bref, de toutes les religions, il y a dans leur fondement quelque chose qui rabaisse un peu la femme au rang d'être inférieure. C'est ce que vous pensez?
Oui, absolument. Il y a d'abord ça. Ce retrait, ce rejet de la femme, et j'ai fait beaucoup de citations à ce propos, c'est vrai, dans la deuxième partie, qui concerne beaucoup les religions. Et puis, ça concerne aussi tous les mensonges, voilà. Les mensonges de religion, des aberrations dans la religion. Pourtant, j'ai été élevée dans la religion catholique, enfin, j'ai été élevée par... On me l'a imposé, mais j'ai été élevée comme ça. J'ai dû aller au catéchisme, et ça m'a complètement abîmée à 10 000 points de vue. Mais bon, très très vite, heureusement, je veux dire, je me suis interrogée très jeune parce que des choses me paraissaient complètement aberrantes, n'avaient aucun sens, ça ne voulait rien dire, ça ne signifiait rien du tout.
Quelles choses, justement, vous ont choqué, très précisément?
Numéro 1, je vais me faire détester. Numéro 1, l'histoire de la Vierge Marie qui met au monde son enfant, sans un papa réel. Ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite, je crois très jeune, perçu comme un mensonge. Quelque chose n'allait pas. Et que ce n'est pas possible, c'est impossible. Donc ça, c'était un point de départ. Mais après, il y a eu plein d'autres choses, toutes ces réflexions sur le Dieu unique et seul dans toute la terre. Enfin, je veux dire, il n'y a que le nôtre. Chaque religion fait la même chose, il n'y a que le leur. Et puis c'est lui qui a, il est très morphologique, donc ça c'est insupportable. Comment voulez-vous lever des yeux et puis vous dire là-haut il y a Dieu assis sur son nuage. Je l'ai écrit tout ça, mais toutes ces choses-là, voilà, qui se. Mais j'ai voulu y réfléchir, pas seulement le dire comme ça en passant, c'est ridicule. Non, j'ai voulu réfléchir, j'ai fouillé, j'ai recherché et je me suis aperçue effectivement que dans toutes les religions, c'est pour ainsi dire la même chose, parce que ce sont des religions avec des dogmes, avec des lois, avec il ne faut pas franchir, etc., etc. Et étonnamment, ou toujours, les femmes ont été mises de côté. Tout le temps.
Alors, est-ce que quand même les religions ont évolué ? Je veux dire, les religions évoluent en règle générale avec le temps, et notamment la place des femmes a été un peu revue à la hausse dans l'Église, et le rapport homme-femme aussi a quand même beaucoup évolué, non ?
Mais je ne dis pas que non, parce que je crois avoir cité des femmes qui sont devenues rabbins, une femme évêque catholique en Angleterre, enfin je veux dire, j'en ai cité plusieurs, bien sûr qu'il y en a, donc oui. Ça a évolué. Il y a des femmes, une femme qui dirige un monastère au Tibet, enfin voilà, il y a bien sûr, il y a beaucoup, mais ce n'est pas assez. Oui. On va dire, même si j'en trouve 15 ou 20, nous sommes des milliards. Vous voyez la différence, ce qui me gêne profondément, c'est toujours, voilà, c'est parce que on me met toujours en face, mais il y a X, mais il y a Y, mais il y a Z qui a fait. Mais qu'est-ce que c'est X, Y, Z ? Alors, est-ce qu'il faut rester avec ça et garder une patience d'autres milliers de siècles avant que quelque chose passe au chiffre supérieur ? Ça n'est pas possible. Il faut regarder en face maintenant et dire, mais ça s'appelle se moquer du monde. Mais c'est juste comme vous voyez, comme si on donnait à un enfant, mais je te donne ce petit joujou-là, comme ça tu vas te calmer, et puis en attendant, et après tu oublieras, et on passera à autre chose. Voilà, ce que je ressens, c'est ça, cette mauvaise franchise, ce non-regard d'une véritable vérité, c'est idiot de dire ça, une véritable vérité, comme s'il y avait des qualificatifs à la vérité. Mais bon, c'est cette non-volonté d'aller jusqu'au fond de la boîte de sardines. Il faut fouiller dans tous les coins et il faut faire l'effort de regarder véritablement qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que vraiment c'est comme ça ? Vous sortez dans la rue, vous allumez la télévision, vous écoutez la radio, qu'est-ce que vous entendez ? Plein de choses terribles toujours. Que ce soit sur les femmes ou sur les religions, hein. Même les massacres partout, les massacres de certains qui ont des croyances différentes des autres, etc. Toutes les ethnies qui s'affrontent, que ce soit loin de chez nous ou plus près, enfin, tout le temps, c'est la même chose. Et alors, pourquoi je dis quelques exemples, c'est important de les citer, parce que ça veut dire qu'il y a des femmes et des gens qui se battent, et peut-être qu'un jour le pape a dit une jolie parole, je ne sais pas, j'en connais pas beaucoup, mais pourquoi il n'y a pas de femme pape ? Pourquoi ? Il y en a eu une autrefois, paraît-il, la papesse, on a écrit dessus, mais voilà, c'est ça que j'appelle plus de réalité. Ce n'est pas des miettes qu'il faut donner.
Guylaine Claus-Corsini, La lumière repliée, publiée aux éditions Unicité. Nous reprendrons le cours de cet entretien avec l'auteur dans la prochaine édition de Vie de l'Esprit. D'ici là, passez une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rancière.
Thank you.